diaphragme et le diaphragme, tout le temps ils ne sont pas là, alors c'est un peu plus difficile. Bon, alors, vous vous rendez bien compte que mon expérience n'est pas du tout celle d'un conférencier. C'est l'une des premières fois où je fais ce genre de choses. D'autre part, je ne suis pas historien de formation, mais comme beaucoup d'entre vous, sans doute, intéressé et passionné par certaines époques de notre histoire qui méritent le détour. Et la guerre des Camisards, à mon avis, est dans ce cas. Alors, je voulais dire aussi que ce n'est pas du tout un goût passéiste, vous savez, le goût de traiter quelque chose qui est du passé parce que c'est le passé, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout non plus une approche, j'allais dire, non pas sectaire, mais enfin orientée. C'est plutôt la volonté de connaître de comprendre et du coup de mieux se connaître. Alors, il y a des raisons de ne pas en parler. Tout d'abord, des racines œcuméniques. Ça tombe vraiment mal parce que la guerre des Camisards, c'est exactement le contraire. D'accord ? D'autre part aussi, on peut dire que c'est un passé révolu, on a d'autres préoccupations. J'ai entendu ces choses-là, c'est pour ça que je vous en parle. D'autre part, on peut dire aussi que c'est d'une histoire locale, une religion minoritaire. Ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est aussi un passé gênant pour tout le monde. Bien sûr, pour les protestants aussi, pour les catholiques aussi, pour l'État aussi. Parce que l'intervention de l'État, à l'époque la royauté, a été d'une brutalité exceptionnelle. Il faut le dire tout de suite. On peut même parler d'une volonté de génocide. J'ai vérifié le sens de génocide. On peut dire que en 1603 en particulier, Louis XIV, en décidant qu'une partie de son royaume serait brûlée pour chasser les gens qui habitent et que ces gens seraient regroupés dans des villes, relève du génocide. Il faut le savoir et le dire avec le roi Soleil. Alors, c'est une révolte assez enfouie et méconnue. Silence des manuels d'histoire, soit avant la Première Guerre mondiale, où on compatit un peu avec les Camisards, mais en même temps on leur reproche d'avoir eu des liens avec l'étranger. C'était très mal vu, à l'époque on allait se battre avec les Allemands. Aussi une difficulté à comprendre. Alors là c'est très intéressant, Jean-Nicolas, qui a été professeur d'histoire au lycée Berthollet, que certains parmi vous ont pu connaître, qui s'est intéressé beaucoup à l'histoire des révoltes du XVIIe et XVIIIe siècle, des révoltes populaires, dit que la guerre des Camisards est un objet déroutant. Et il est même tellement déroutant que les historiens soviétiques, qui pensaient tenir là un excellent exemple de révolte du prolétariat contre les seigneurs et la bourgeoisie, ont abandonné. Parce qu'en effet, vous verrez, il n'y a pas du tout ces caractères-là dans cette révolte. En tout cas, c'est là le fondement de cette intervention, on peut dire que la guerre des Camisards d'un côté, et ensuite cette période qu'on appelle le temps du désert qui va suivre, ont fondé la restauration du protestantisme français. Alors je m'explique, pour ceux qui n'en ont pas une idée précise, le désert est un mot emprunté en fait à l'Ancien Testament, enfin au Premier Testament, qui évoque le désert qu'ont traversé les Israélites pour pouvoir retourner pour aller à la terre promise. C'est l'idée donc d'une période extrêmement difficile. Bien, alors on commence, j'espère que j'ai compris. C'est une reproduction, c'est absolument faux, c'est un tableau d'un peintre du 19e, 20e siècle, Samuel Bastide. Ce tableau représente de façon assez, je dirais, romantique et sans doute inexacte, un groupe de Camisards avec un homme qui, en haut à droite, les harangue ou qui fait une prière plus exactement, une exhortation. Un trait caractéristique de la révolte des Camisards, c'est son aspect mystique, plus que religieux, mystique, empreint, disons, d'une foi, dans ce cas-là, totalement issue du Premier Testament. Parfait, ça marche. L'édit de Nantes, il faut remonter là pour comprendre, en effet, 1598. Tout le monde en a entendu parler et considère que c'est vraiment un très grand progrès. C'est vrai, mais il est bancal, il est imparfait, même s'il est exceptionnel. Pourquoi est-il exceptionnel? Il est exceptionnel d'abord parce qu'il attribue, il accorde pour la première fois à cette époque, de façon extrêmement limitée, une liberté de conscience. C'était une très grande nouveauté. D'autre part, il maintient, il accorde la pleine citoyenneté aux protestants quant au choix des métiers, quant aux fonctions. Il reconnaît le droit pour le protestantisme d'avoir des églises où elles sont déjà et de pouvoir en construire deux par bailliage. Alors, pourquoi bancal et imparfait? Parce qu'en même temps, c'est lié bien sûr à l'époque, il accorde un certain nombre de places dites de refuge, c'est-à-dire des endroits qui militairement peuvent être défendus aux protestants. C'est-à-dire qu'en fait, il accepte que dans le royaume de France, il puisse y avoir une sorte de puissance protestante. Et là, je rapporte l'expression d'un ancien président du Conseil national de l'Église réformée, c'est-à-dire Michel Bertrand, qui était venu ici il y a quelques années, qui m'a dit, en fait, l'édit de Nantes, c'est coexister dans l'intolérance. Il faut bien que ce soit clair. Parce qu'en effet, on peut dire que dès la mort d'Henri IV, en 1110, jusqu'en 1185, le pouvoir royal et l'Église, qui lui est étroitement liée, vont tout faire pour réduire, disons, le protestantisme. Je lis un passage d'une lettre de Louis XIV au dauphin. Il dit « Réduire peu à peu les huguenots de mon royaume, ne point les presser du tout par quelques rigueurs nouvelles, mais aussi ne leur accorder rien de plus et d'en refermer même l'exécution dans les plus étroites bornes. » Alors, dans cette période, on peut dire qu'il y a différentes phases. La première phase, c'est la phase qui va jusqu'en 1629, où il y a encore une révolte armée conduite par des seigneurs protestants, le duc de Rohan, contre le pouvoir royal. La paix d'Alès détruit cette puissance militaire des protestants et leur laisse le droit de pratiquer leur religion. Mais, à partir de l'accession au pouvoir personnel de Louis XIV, c'est-à-dire 1161, il va tout faire, et il va bien le dire, pour réduire la présence protestante. Le but à atteindre, il est soutenu par les assemblées du clergé dans ce domaine, le but est à atteindre, c'est l'éradication de l'hérésie. Alors, il n'est pas le seul en Europe. Ça, il faut aussi bien le préciser. Oui, j'ai oublié de vous dire au début que pour ne pas trop commettre d'anachronisme, il faut penser d'abord à cette époque-là, la plupart des États en Europe s'appuient sur une religion. Un roi, une religion, un État. C'est clair et net. En Angleterre, avec Cromwell, ce sont les catholiques qui seront martyrisés. Pas de problème. En même temps, aussi, pas faire l'anachronisme de la violence. La violence est généralisée de tous les côtés. D'autre part aussi, ne pas faire un anachronisme sur la notion d'État, de nation, pour être exact. La France est une nation qui est en train de se constituer et on ne peut pas parler de la France de cette époque comme de la France d'aujourd'hui. Donc je reviens à Louis XIV. Son pouvoir, c'est affermir le pouvoir politique royal et en même temps affirmer une religion d'État. Le clergé, l'assemblée du clergé de 1565, précise qu'il faut extirper les reliquats de l'hérésie. C'est clair et net. Alors, et le roi fait preuve d'une volonté à toute épreuve. Il dit qu'il se couperait le bras gauche plutôt que de renoncer. Alors, la pratique. La pratique, c'est ce qui a été indiqué au début. On va étouffer peu à peu en réduisant les marges de manœuvre. D'abord, une politique qui se veut légaliste. Des juristes sont envoyés pour vérifier si, par exemple, tel temple est bien construit, l'endroit où il pourrait être construit, si tel autre temple qui n'était pas à sa bonne place était détruit, etc. Ça, c'est une politique, disons, une application juridique tatillonne, à minima, de l'édit de Nantes. D'autre part, on crée aussi une caisse de conversion. On va donner de l'argent aux protestants qui acceptent de se convertir et leur donner des avantages financiers. Alors, avis, ordonnances, arrêts divers se succèdent. Par exemple, il est interdit de chanter des psaumes en public. Vous pouvez les chanter chez vous, mais pas dans la rue, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 12 protestants dans une fête. L'obligation d'observer les fêtes catholiques. Autorisation aux enfants d'abjurer dès 14 ans. Et puis après, on va passer jusqu'à 17 ans. Alors, enterrement le soir ou à l'aube. Le costume des pasteurs doit être, ne peut plus ressembler à un costume de prêtre. Ils doivent donc s'habiller différemment. Et alors quelque chose qui, pour nous, enfin moi, me semble absolument incroyable, obligation qu'il y ait un prêtre au moment où il y a un mourant protestant pour qu'il puisse le convertir avant qu'il meure. Si jamais il survit, si jamais le mort survit, il sera puni. Autrement, s'il meurt, il sera porté sur la clèche, c'est-à-dire traîné dans la ville. Oui. Interdiction aux protestants d'avoir accès à certains métiers. Notaire, sage-femme, pharmacien, libraire, médecin, imprimeur. Et cette image que vous voyez, que vous connaissez, on a peu de documents de l'époque, bien sûr, montre de façon très symbolique cette pression. Comme je préfère parler directement, je vous laisse regarder l'image, essayer de la déchiffrer vous-même. On aboutit donc tout naturellement, le 17 octobre 1685, à la révocation de l'édit de Nantes, c'est en fait l'édit de Fontainebleau. Alors voilà par exemple un témoignage de l'Assemblée générale du clergé, le 17 août 1675. Je cite, « La liberté de conscience est regardée par tous les catholiques comme un précipice creusé devant leurs pieds, comme une porte ouverte au libertinage. Ôtez-leur, sire, ôtez-leur cette funeste liberté et mettez-les dans l'heureuse nécessité d'être toujours fidèles. » Alors, cet édit de Fontainebleau, il est pris aussi parce que les circonstances sont favorables. C'est-à-dire, d'abord le roi veut prouver sa catholicité aux autres pays d'Europe, et en particulier au pape, avec qui il a des rapports extrêmement mauvais. D'autre part, il veut montrer aux Autrichiens que lui, il est encore plus catholique que les Autrichiens ont arrêté les Turcs 2 années avant, mais les Français, la France a refusé d'y participer. Alors il va montrer que lui, dans son royaume, il fait quelque chose d'efficace. D'autre part, en politique intérieure, il bénéficie du soutien sans faille, en tout cas du haut clergé. Localement, je ne peux pas vous en parler. Alors, apparemment, en effet, toute cette politique qui a précédé est un succès. Les nobles protestants, par exemple, les Turennes, se sont convertis. D'autre part, aussi, la caisse de conversion n'a pas eu un grand succès. On parle de 10 000 personnes au maximum. Mais par contre, il y a les dragonnades. Alors là, c'est extrêmement efficace. Depuis 1681, ça a commencé dans le Poitou, il va y avoir régulièrement des dragonnades. Alors, je pense que vous avez une idée quand même assez précise de ce que c'est. C'est-à-dire, ce sont des troupes qui sont envoyées dans des villages, dans des villes, et qui sont installées chez les hérétiques aussi longtemps qu'il le faut pour qu'ils se convertissent, avec des traitements réservés au personnel, dont j'ai une liste, je ne sais pas si c'est un truc, qui aurait de quoi effrayer par leur inhumanité. Bien. Alors, d'autre part aussi, au niveau de la cour, il a du soutien. Madame de Maintenon, la petite fille d'Agrippa d'Aubigné, est tout à fait d'accord pour ce genre de choses. Et elle dit, par exemple, elle est influente. Hein. Le roi commence à penser sérieusement à son salut. Si Dieu nous le conserve, il n'y aura plus qu'une religion en son royaume. Ça, c'est en 1682. D'autre part aussi, son confesseur, qui est un jésuite, le père de la chaise, extrêmement doux, extrêmement gentil et très influent. On dit que tous les ministres de Louis XIV passent le voir parce qu'ils savent qu'il a beaucoup d'efficacité. Le père de la chaise insiste justement pour qu'on en finisse avec cette hérésie. Par exemple, il dit et Louvois. Louvois, alors c'est le côté militaire, vous avez entendu parler de Louvois. Celui qui a créé les écoles d'officiers, etc. Mais il faut penser aussi que c'est celui qui a inondé la Hollande. C'est aussi celui qui a massacré à qui mieux mieux dans le Palatinat. Et Louvois, lui, alors soutient totalement l'idée d'éradiquer le protestantisme. Alors, cet édit supprime donc l'édit de Nantes et de Nîmes. Quelles sont ses résolutions? Elles sont très claires. Destruction des temples, expulsion des pasteurs. Ils ont 15 jours pour partir ou se convertir. Suppression des écoles protestantes. instruction religieuse dans la religion catholique. Restitution des biens aux exilés, ça veut dire, comme il y a déjà eu toute une vague d'exil vers d'autres pays, s'ils reviennent, on leur rendra leurs biens. Et alors, interdiction de s'exiler. On leur interdit de pratiquer leur religion, on détruit la structure de la religion, et on leur interdit de s'exiler. Et en fait, la guerre des Cévennes va être déclenchée à partir d'un incident de ce genre. Alors, l'hypocrisie, on peut dire, mais en tout cas, la cerise sur le gâteau de tout ça, c'est quand même le dernier article, parce qu'il semble contredire les autres. C'est l'autorisation de pratiquer en privé la religion prétendue réformée, RPR, la religion. On peut la pratiquer, mais en privé. Et même l'article précise que sans pouvoir être empêché ni trouble sous prétexte de la dite RPR, c'est-à-dire que vous pouvez pratiquer en privé la religion réformée, ce qui est contradictoire avec tout le reste. Alors, non, excusez-moi. Il y a un petit désordre. Parce que, je m'explique, détail technique, j'avais des diapos qui n'étaient pas exactement celles-là. Tous les éléments y sont, mais ce n'est pas tout à fait dans l'ordre, donc vous comprendrez ma. Je crois que je suis un peu. Écoutez, Louis XIV. Ici, Nicolas de Lamoignon de Baville, l'intendant du Languedoc. C'est lui qui avait le principal responsable des massacres, de la répression extrêmement brutale qui va avoir lieu dans les Cévennes. Le maréchal de Montrevel, qui a une expérience militaire assez grande, et qui arrive en Languedoc en 1603, qui repartira en 1604 pour incompétence. Le maréchal de Montrevel, d'abord, demande qu'on amène beaucoup plus de soldats. 20 000 soldats, à ce moment-là, en Cévennes. Qui s'appuie aussi sur des milices bourgeoises, c'est-à-dire que dans les villes, la bourgeoisie protestante, qu'on appelle les nouveaux convertis, NC, ils avaient déjà le goût des abréviations, les NC, et NC ont formé des milices qui vont aider l'armée. Mais ces milices, alors les nouveaux convertis, bien sûr, n'ont pas le choix d'abord. Et d'autre part, ils sont un peu partagés entre ne pas avoir de problème et puis une certaine sympathie pour les camisards. Alors, de Montrevel, oui. Montrevel va être, je change un peu l'ordre puisque les diapos ne sont pas tout à fait ce que j'ai prévu, peu importe. Montrevel, en fait, maréchal de France, va être battu en 1604, au mois de mars 1604, à Martignac, petite ville des Cévennes, par une troupe de camisards conduite par Jean Cavalier. Et le roi, qui commence à comprendre que Montrevel est vraiment inefficace, va le muter, va l'envoyer, je crois, à Bordeaux, et va faire appel à un autre maréchal qui, lui, va utiliser à la fois la violence, mais aussi, non pas la douceur, mais la diplomatie, c'est maréchal de Villars. En face d'eux, c'est glorieux maréchaux, donc trois maréchaux, il y a eu deux ducs, entre 20 et 30 000 hommes, j'ai même lu le chiffre de 60 000 hommes, vous vous rendez compte? 30 000 hommes pour une petite région pour réprimer une révolte, vont avoir en face d'eux des illustres inconnus, ce sont des paysans. Un des caractères de la révolte des camisards, c'est que c'est une révolte populaire et paysanne. On ne comptera très peu de nobles, il y en a un ou deux des petits nobles, le marquis de Falgas, si on en parle en vain. On ne comptera pas de bourgeois, pratiquement pas de bourgeois. Ce sont donc des paysans et des artisans. Quels paysans? Des cardeurs de laine, hein, des bergers. Cavalier, lui, est donc un apprenti boulanger, Mitron à Anduze. Roland est un châtreur de porc. Catina, qui a été l'un des rares qui a une formation militaire, qui va diriger la cavalerie, parce qu'ils auront une cavalerie d'une centaine de soldats, enfin de soldats, de camisards sur des chevaux de Camargue. Hein. Et donc, lui, de humble extraction. C'est un trait très caractéristique. Il n'y a pas du tout un support. C'est par exemple une différence avec les guerres de Vendée, où les nobles royalistes et catholiques vont les animer. Et là, c'est totalement différent. Alors, Jean Cavalier, on peut en parler. Là, il est présenté d'une façon. Je pense que l'image est sans doute. Enfin, l'image. Le dessin est sans doute d'époque. Il y en a très peu, en fait. Hein. Il est présenté sous son plus beau. Lui, l'ancien berger, l'ancien Goujat, le Goujat, c'est le valet ferme, hein. L'ancien apprenti boulanger va connaître d'abord très bien diriger ses troupes, connaître pas mal de victoires dans des combats très différents. Ça peut être des embuscades, ça peut être des combats en traditionnel réglé. En même temps, il va avoir une très grande influence, comme les autres chefs camisards, il va avoir une très grande influence sur ses compagnons. D'ailleurs, c'est assez symptomatique, Cavalier a été choisi par les camisards. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a nommé, mais il a été choisi. Et c'est le même phénomène pour tous les groupes de camisards. Alors, Bonbonneau, qui était un de ses adjoints, enfin quand je dis adjoint, c'était... Il y avait une organisation de type militaire, mais pas d'un type militaire réglé, disons, dit de cavalier, qu'on lui obéissait à peu près comme à Dieu lui-même. Oui, en effet, Cavalier a d'abord été apprécié par les camisards parce qu'il avait le don de prophétie. Alors, là aussi, c'est un peu dans les ordres. Sachez que les chefs camisards étaient des chefs militaires, plus ou moins bons, Cavalier en était un très bon, Roland était nettement moins bon, mais ils étaient tous des porteurs de la parole. C'est-à-dire que Cavalier était apprécié parce qu'il avait, le nom m'échappe maintenant, c'est-à-dire il avait des inspirations. C'est-à-dire, avant de combattre, il y avait des prières, chants de psaumes, et certains d'entre eux avaient la capacité, sans penser ce que vous en voulez, de savoir ce que l'Éternel leur demandait de faire. Alors, un autre grand nom, il y en a, à mon avis, chez les camisards, il y en a trois. Il y a Jean Cavalier, il y a celui qu'on appelle Roland, dont on n'a aucun portrait, si vous voulez, qui est en fait Pierre Laporte. Et si vous allez au musée du désert à Mialet, c'est la maison natale de la famille de Roland, hein, le Massou-Béran. Alors, Antoine Cour, qui a été le restaurateur de l'église réformée au XVIIIe siècle et qui est un historien de grande qualité, dit de Roland, qu'il a connu, qu'il avait l'œil ferme et élevé, actif, intrépide, infatigable, plein de zèle pour tout ce qui avait du rapport à la religion dans laquelle il est né. D'autres chefs, il y en a au moins une quinzaine, Joigny, Ravanel, Solon, Caudert, etc. Simplement pour vous dire, il n'y avait pas un, il y en a trois qui sont vraiment très importants, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Une carte de l'époque, 1602, elle est aussi reproduite en bas. C'est une carte, celle-là, qui a été faite en France. On a la même éditée en Hollande. Parce que un autre aspect de cette guerre, c'est que c'est peut-être une guerre très locale, mais elle a des échos ailleurs. Par exemple, en Hollande, en Suisse, en Angleterre, et dans les pays, disons, qu'on appelle du refuge. Le refuge étant les pays où les protestants qui sont partis à la suite de la révocation ou avant la révocation se sont retrouvés. Alors cette carte, elle est assez intéressante parce que les personnages que vous voyez en haut ne sont pas du tout des camisards. Ce sont des miclets, c'est-à-dire des soldats de l'époque qui sont renommés pour leur brutalité et leur vulgarité, qui surveillent les Cévennes. Vous pouvez lire où se retirent les fanatiques du Languedoc et les plaines des environs. Ils font leur course avec les grands chemins royaux. Ah oui, alors, Baville, l'intendant, avait demandé au roi le droit de faire des chemins royaux, c'est-à-dire des voies les plus droites possibles. Aujourd'hui, je crois que c'est ce qu'on appelle la crête des Cévennes. Non, je pense. Hein. qui permettait à l'armée, enfin aux soldats, de se déplacer rapidement, avec cette illusion que nous avons eue, nous, plus tard, au moment de la guerre d'Indochine, par exemple, que parce qu'on maîtrise une voie, on maîtrise le pays. C'était absolument faux, bien sûr, quand des soldats étaient passés, à nouveau, les commissaires étaient là. Et l'une des sources de renseignement des commissaires, c'était justement qu'ils arrêtaient les estafettes, enfin les envoyaient, et ils étaient parfaitement au courant des manœuvres des militaires en question. Alors, cette révolte des camisards, c'est une révolte qui déroute. Je l'ai dit en introduction, mais c'est bien clair. D'abord parce que c'est une guérilla. À l'époque, on ne connaît pas. Elle n'a pas été, comment dire, pensée comme guérilla, mais dans la réalité, c'est une guérilla. C'est-à-dire des troupes qui sont à géométrie variable, qui se regroupent, qui se dispersent, qui refusent la plupart des combats réglés, sauf quand ils savent qu'ils peuvent les gagner. Bon, autre chose aussi, je l'ai dit, mais je répète, c'est très important, c'est une guerre d'inspirés. L'expression n'est pas de moi, mais d'un grand historien spécialiste de la question, Philippe Joutard. Guerre d'inspirés, oui, c'est vrai, c'est pour ça que les historiens soviétiques n'ont pas cité, parce que, en fait, leur motivation profonde, c'était celle-là, la liberté de conscience, le droit de croire à leur façon. Et c'est bien plus qu'une liberté religieuse, c'est en fait tout un comportement. On a d'innombrables témoignages qui montrent que cette foi protestante entrée en particulier dans les Cévennes, mais il y a d'autres régions, il y a le Vivarais, enfin, c'est pas simplement une foi, c'est aussi une façon d'être. Un petit exemple pour illustrer ça, on reconnaissait, paraît-il, dans le Languedoc, les catholiques et les protestants par le fait que les catholiques continuaient à chanter des chansons traditionnelles, et parfois aujourd'hui qu'on qualifierait plus ou moins de paillardes, alors que les protestants s'en connaissaient parce qu'ils chantaient eux que des psaumes. Vous voyez comment la culture pouvait être très différente. Voilà. Alors, nous y arrivons. J'espère que je ne vous lasse pas trop parce que je sais que c'est beaucoup de choses. Si par hasard il y a quelque chose qui vous échappe vraiment, je vous en prie, je reprendrai. C'est le pont de Montvert. Le pont de Montvert est un petit hameau que certains connaissent, pas très loin du Bougès, je crois, en Lozère, mais très proche du Gard. Il s'agit de l'abbé François de Langlade de Chéla, 1647-1702. Alors, pour les catholiques, c'est le fléau des méchants, et pour les protestants, c'est un suppôt de Satan. Alors, je pense que la difficulté, c'est que, pas la difficulté, ce qu'il y avait de caractéristique, c'est qu'il avait deux rôles. D'une part, il était le grand vicaire de l'évêque de Mende, c'est-à-dire un rôle ecclésiastique, mais en même temps, il était inspecteur des missions chargé de la sécurité, de la sûreté du chemin stratégique. C'est-à-dire qu'il avait un rôle, il avait été nommé là, par Baville. Hein. Il avait donc un rôle politique et un rôle policier. Il faisait arrêter les gens. On sait aussi qu'il est torturé. Alors le personnage lui-même, tout noir, au contraire, il est courageux, il est tenace. C'est un missionnaire musclé. Il a été missionnaire au Siam. C'est un enquêteur acharné, aimant l'opulence aussi, d'après la maison dans laquelle il vivait, qui n'hésite pas à torturer. Par exemple, en mettant des pieds entre des poutres pour obliger les personnes à rester debout, ou bien charbon ardent dans la main. Abus sexuel aussi. Et les historiens pensent qu'en fait, il n'était pas, disons, pervers au sens individuel, mais que la fin, pour lui, justifiait les moyens. Exactement comme l'intendant Baville. La fin justifie les moyens. Il est redoutable et il est redouté. Il est haï par la population protestante du coin. Alors, tout commence comment? Alors, d'abord, je vais vous lire aussi une lettre d'un cousin de l'abbé du Chélac. Il écrit donc à l'abbé. « L'on voit par les mauvais traitements que vous faites aux Huguenots que vous avez le dessein de faire votre cour et de parvenir à l'épiscopat. Mais il est à craindre que vous vous trouviez dans votre compte, que vous ne trouviez votre compte et que vous ne soyez victime de votre conduite. » C'est exactement ce qui va se passer. Le 22 juillet 1702, je serai bien plus rapide après, mais là il faut comprendre, ont été arrêtés un groupe de jeunes qui voulaient fuir pour gagner la Suisse. Ils avaient un guide massif, un groupe de jeunes, c'est-à-dire 4 garçons et 3 filles, habillés en garçons. Ils ont été imprudents, ils sont allés dans une taverne, ils se sont fait repérer, ils ont été arrêtés et amenés et emprisonnés dans la maison de Duxilla au pont de Montvert. Et le 22, à la foire de Bar-les-Cévennes, les parents de certains jeunes s'adressent à l'abbé et lui demandent sa clémence. Il répond que non, et que non seulement il n'est pas question de clémence, mais qu'il a demandé que le bourreau demande, vienne, pour exécuter le guide, ce qui est la règle à l'époque, ce qui était prévu dans ce cas-là. Le guide Massip, qui est un homme assez âgé. Alors, à la même foire, il y a un groupe de jeunes, oui, les camisards sont jeunes, comme par exemple Abraham Hazel. On a intitulé cette partie « Le temps des camisards ou le temps d'Abraham Hazel » 1602-1604. Abraham Hazel, ils entendent cela et ils vont passer la nuit du samedi au dimanche en prière, en chant de psaume et en inspiration. Que faut-il faire? Alors ils vont décider de se révolter et de tuer l'abbé Duché. Enfin, tuer, du moins d'aller plus loin que simplement la résignation. Parce que, en fait, ce qui avait dominé jusque-là, c'était la résignation. Ce qu'il y avait dans les assemblées où se réunissaient, du désert où se réunissaient déjà les protestants, c'était malédiction, pardonnez-nous. C'était un sentiment très fort de culpabilité. Bon, je reviens au sujet. Et le lundi 24 juillet 1602, vers 22h, un groupe d'une cinquantaine d'hommes.
1702.
Ah oui, bien sûr, excuse-moi. Oui, bien sûr, c'est une erreur. Gigantesque, bien sûr. 1702, nous sommes en 1602. Vous voyez, les diapos telles que je les avais prévues disaient tout ça, mais bon, là c'est uniquement les images. Bon, le 24 juillet 1602, à Pont-de-Montvert, vers 22h, un groupe d'une cinquantaine d'hommes entre en chantant un psaume, on sait lequel, c'est le psaume 51, s'approche de la maison de Duchella et demande la libération des prisonniers. Alors le dialogue tel qu'il nous est parvenu. Nous demandons les prisonniers de la part de Dieu. Un serviteur dit, eh bien, ils sont à vous. Le groupe attend, rien ne se passe. Alors ils enfoncent la porte, ils veulent monter à l'escalier qui est barricadé, coup de feu, il y a un tué. On met le feu à la maison, on libère les prisonniers, et l'abbé Duchella essaie de s'échapper avec une corde de drap, mais il tombe, il est blessé. Il se réfugie dans un coin et la lueur de l'incendie révèle aux révoltés la présence de Duchella. Alors, il va être assassiné sur ce pont de 52 coups de couteau, d'arme blanche. Alors, le chiffre est intéressant parce que ça veut dire que ce n'est pas un crime habituel, ça veut dire que c'est un crime rituel, on va dire. Et ensuite, de ceux qui avaient participé disaient que il avait poignardé en disant « Tiens, c'est pour mon frère qui est aux galères. Tiens, c'est pour mon père qui a fait arrêter, etc. » 52 coups de couteau. Alors, bien sûr, l'État... Et alors, à partir de là, ce groupe va commencer pendant 15 jours une ronde sanglante. C'est-à-dire, ils vont passer dans les villages, vont brûler les églises, vont tuer des prêtres. Je précise que les prêtres qui tuent sont en général des prêtres qui sont considérés comme collaborateurs. Ils vont tuer aussi des protestants, ceux qu'on appellerait aujourd'hui des collaborateurs. Et au bout de 4 jours, le capitaine Poul, qui est extrêmement efficace, qui a une magnifique moustache et un sabre d'Arménie, arrête une partie du groupe, et en particulier Esprit Séguier, qui est un animateur, un homme barbu, très fort. Il est condamné, bien sûr, à être brûlé vif, mais avant de se voir couper le poignet gauche. Alors, on a les minutes du procès, c'était juste avant son exécution, des dernières paroles de Séguier. Question-réponse. Votre nom, Pierre Séguier, pourquoi vous appelle-t-on Esprit? Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Votre domicile, au désert, et demain au ciel. Demandez pardon au roi. Nous n'avons d'autre roi que l'Éternel. Repentez-vous de vos crimes. Mon crime est un jardin plein d'ombrages et de fontaines. Il est exécuté. On raconte qu'avec sa main droite, il prend sa main gauche et la jette au feu. Enfin, c'est une scène très forte. Alors, le duc de Broglie, qui précédait en fait Maurevel, le chef donc de l'armée, écrit au secrétaire d'État à la guerre, au ministre de la guerre, je cite, « Ici, on tue et on arrête tous les jours, en sorte que ces troupes de bandits aient, selon toute apparence, dissipé. » Au même moment, à 50 km de là, le baron de Saint-Cosme était assassiné par un autre groupe. C'était le début de la guerre des Camisards. Ça va? Alors, j'ai vu la guerre des Camisards. C'était ce qu'on avait vu au début,
non? Non.
Oui, alors c'est à nouveau une très intéressant. D'abord, les Camisards, vous les voyez en haut. Ils sont représentés par Samuel Bastide. Donc, ça n'a rien de contemporain, c'est une interprétation, mais elle est quand même intéressante. Alors, les Camisards sont agenouillés. Et ils chantent. Pardon, sans doute le cantique dit cantique des batailles, le psaume 68. Vous voyez aussi qu'en bas, vous avez l'armée royale qui se prépare à monter à l'assaut. Alors, la tactique est assez intéressante. Dans ce cas, c'est un cas exact. C'est-à-dire, c'est pas une fabulation en général. Ils laissent les soldats monter et quand ils sont proches d'eux, ils les fusillent à bout portant et eux reculent très vite. C'est-à-dire que c'est déjà une guerre, si vous voulez, pas d'escarmouche, mais enfin, ce n'est pas une guerre frontale, une guerre classique. Et l'armée royale est extrêmement désarmée, c'est le cas de dire, devant ce type de guerre. Un ennemi qui fuit, c'est ce qu'on voit dans toutes les guérillas. Alors, les Camisards, alors les royaux, donc. Non. Alors, ce qu'on appelle les royaux. Donc, je vous ai dit qu'il y avait eu une suite de commandants. Il y a eu De Broglie, Maurevel, Villars, Berwick, deux maréchaux, hein, deux ducs, force environ 25 000 hommes, 21 bataillons d'infanterie, 6 régiments, 3 régiments de dragons, dont l'un est très renommé et très efficace, le régiment de Firmacon, des miclets, c'est-à-dire de l'infanterie assez brutale, les milices bourgeoises, les canons de montagne. Leur stratégie, c'est la stratégie d'une armée classique réglée à l'époque, en fait elle est défensive, c'est-à-dire ils restent dans les forts qui ont été construits, si vous voulez, ou bien punitive quand on leur indique qu'il faut aller sévir un endroit. C'est en fait une armée de maintien de l'ordre, de sécurisation. Ils contrôlent les chemins royaux dont on vous a parlé, qui ont été construits pour permettre à l'armée de se déplacer rapidement. Ils restent dans les forts, pas d'initiative, ils réagissent. Les Camisards, alors vous savez peut-être, enfin on essaie de comprendre l'origine du nom, on pense que c'est, il y a plusieurs interprétations. Peut-être c'est lié à leur chemise blanche, en fait qui devait être assez sale, qu'ils portaient librement sur leur pantalon. On pense aussi que ça peut être aussi au fait qu'ils donnaient à la camise, c'est-à-dire qu'ils attaquaient le soir ou dans la nuit. Leur chef, donc je vous en ai parlé déjà, un certain nombre, trois dominent vraiment, Cavalier, Roland, Mazel. Ce sont des inspirés, des prophètes ou des prédicants. Bon. Origine sociale, j'en ai parlé. Leur nom, alors très intéressant. On chiffre au maximum un groupe Camisard à 1500 personnes. C'était le grand maximum. Ça veut pas dire qu'il y a, ils ont été, ça veut dire qu'en fait, c'était 1500, mais qu'ils avaient le soutien du tiers de la population réformée de l'époque. On chiffre à 30 000 le nombre de protestants qu'il y avait dans cette région des Cévennes. 10 000, d'une façon ou d'une autre, ont participé au combat des Camisards ou soutenu les Camisards. Il n'était pas rare on a appris que la nuit, il y avait une opération, si vous voulez, des Camisards, une embuscade, etc. Et le lendemain, ils allaient aux travaux des champs. C'était. Alors, les combats. Les combats. On en compte, entre 1102 et 1104, on compte 90 affrontements d'importance variable. Embuscades, expéditions punitives, escarmouches, batailles rangées. J'en ai pris trois pour vous montrer quel type de combat il pouvait y avoir. D'abord la ruse. Par exemple, à Sauve, un complice des camisards, Vianon, vient, entre dans la ville et annonce aux autorités militaires qu'une bande d'attroupés, comme on disait, les camisards c'est aussi les attroupés, aussi les hussards, différents noms, une bande d'attroupés se trouve à proximité. L'officier de service sort avec les soldats. Pendant ce temps, les attroupés en question entrent dans Sauve, pillent les magasins, s'équipent en uniforme, en vêtements, ils n'ont pas d'uniforme bien sûr, et puis s'en vont. La ruse a été très souvent utilisée, en particulier par Cavalier. D'autre part, alors il y a eu quelques batailles rangées. Certaines ont tourné à l'avantage des camisards, d'autres ont tourné évidemment à l'avantage de l'armée royale. À l'avantage des camisards, je vous l'ai dit, le 14 mars 1704, Jean Cavalier tend un piège. Il avait une centaine de soldats. Il installe le gros de sa troupe derrière un ravin et il demande à ses meilleurs tireurs de se mettre sur une aile, je pense l'aile droite, couchée dans les genêts, et à l'autre partie à la cavalerie sur de l'autre côté, cachée dans un bout. Les royaux arrivent, voyant des camisards en face, ils s'approchent, ils tirent, apparemment de trop loin, ils pensent en avoir tué beaucoup, ils s'approchent du ravin, et au même moment, Cavalier fait déclencher le feu et attaquer sur les côtés. 400 morts, dont 22 officiers, pour deux camisards. Là, Cavalier, le mitron d'Anduze, avait battu le maréchal de Montrevel, ce qui lui a coûté sa place, comme je vous l'ai dit. Louis XIV a compris qu'en fait, Montrevel n'était pas très efficace. Mais, le retour, Montrevel, qui était quand même ulcéré d'avoir été ainsi trié par des paysans, un mois après, alors là, avec 350 hommes, 22 officiers, il arrive à surprendre les camisards de Cavalier qui étaient au repos, qui étaient fatigués, et il va bien sûr en massacrer un grand nombre, mais ils vont se replier en bon ordre. C'est-à-dire que malgré tout, alors on peut se dire, mais en fait c'est une guerre qui n'a pas de sens. Je veux dire, parce qu'il était évident que les camisards, dès le début, ne pouvaient pas vaincre. Ce n'était pas une guerre où il y avait un vainqueur et un vaincu. Bien. Alors la fin, on va dire, de cette guerre de 1604, c'est d'une part donc cette défaite dont je vous ai parlé, la défaite de Cavalier à Nage, et d'autre part aussi, c'est affiché en bas, la découverte par l'armée royale des grottes dans lesquelles Cavalier a mis ses vivres, ses armes et ses instruments pour faire des balles. Aussi, quand on détruit une église, on récupère tout ce qui est plomb pour faire des balles. Et alors, ces réserves sont découvertes, c'est au mois d'avril 1604. Et là, massacre des blessés. Alors, je vous lis un petit peu ce que l'Ouvre-Lol était un abbé qui était l'ami de Duchéla et qui a tenu un journal très intéressant de cette révolte. L'Ouvre-Lol écrit « Plusieurs soldats s'amusèrent à porter à la pointe de leur épée des enfilades d'oreilles de camisards tués, et que tous firent une décharge générale en entrant à leur retour dans la ville d'Alès. » Ça, c'est dans le principe de René. Oui, le titre que j'avais choisi, c'est « Un théâtre de deuil et de désolation ». C'est exactement ça. Ici, alors, je vous lis deux témoignages, comme ça vous comprendrez tout de suite. Alors, ce théâtre de deuil et de désolation, on peut dire que c'est janvier 1603, juin 1604. Citation, pardon. 1604, qu'est-ce que tu dis? Ah bon, d'accord. 1604. Là, le rapport d'un brigadier qui dépend de Montrevel. Voilà ce qu'il écrit. Il écrit au ministre de la guerre. Il lui dit ceci, janvier 1603. Je dois avoir l'honneur de vous dire que ma troupe fit une vingtaine de prisonniers qui paraissent tous être de la bande. Et comme nous aurions été embarrassés de les garder, je pris la peine de leur faire casser la tête à mesure qu'on me les conduisait et qu'ils avouaient être au nombre des rebelles. Témoignage maintenant d'Élie Marion, qui était un des révoltés dans ses mémoires. Je cite, « On ne voyait partout que des gens de guerre, bourreaux, tortures et roues dans les villes, massacres et incendies dans les campagnes. Les procès sont exceptionnels, les soldats tuent sur le champ. Par exemple, 1200 nouveaux convertis sont sans armes, sont massacrés par les soldats, les cadets. Alors j'ai choisi deux violences, l'une et l'autre, sont équilibrées, elles sont peu équilibrées dans l'horreur. Une violence de Montrevel, c'est-à-dire le maréchal. 1er avril 1903, près de Nîmes, massacre du moulin de Lago. Une assemblée, c'était le jour, le dimanche de l'impact. Ouais. Une assemblée est réunie près de la porte des Carmes à Nîmes, je ne sais pas où c'est, à proximité du logement de Montrevel, qui est en train de déjeuner. Il commence son déjeuner, et un homme qui le détestait dit que c'est un gros mangeur comme le roi son maître. Enfin, passons. Il est en train de déjeuner, et il est absolument ultéré qu'on ose interrompre son repas. Il donne l'ordre de tout massacrer et incendier. Et c'est exactement ce qui est représenté là. C'est-à-dire l'incendie du moulin de Lago. Voilà. Alors, un petit détail, par exemple, un valet de Montrevel qui apparemment avait un tendre sentiment pour une jeune fille, va le voir et lui demande d'épargner cette fille. Il est roué de coups et la fille est exécutée. D'accord. Alors maintenant, la violence des camisards. Il y a eu une violence évidente, sûre. Par exemple, même année, le 20 septembre 1703, Jean Cavalier, avec des camisards et des paysans du coin, Jean Cavalier, c'est-à-dire œuvrait, si on peut dire, enfin, manœuvrait dans la plaine. C'est le moment où, justement, dans la montagne, l'incendie des Cévennes dont je vous ai parlé a lieu. Et il s'était mis d'accord, peut-on dire, avec Roland, pour essayer de fixer les troupes royales dans la plaine. Jean Cavalier fait encercler le village de Saturargues, et Saint-Cériès ensuite. Il fait fermer le village, et tous les hommes, les femmes et les enfants sont massacrés à l'arme blanche. D'accord ? Tous. Alors, peut-être, ça permet de comprendre, mais ce n'est pas sûr, il venait d'apprendre qu'on avait arrêté son père et son jeune frère. C'est une explication. Mais... Ceci étant dit, Cavalier aussi va faire exécuter des camisards qui ont commis des abus. Ce qui est assez intéressant, c'est que du côté des camisards, et leurs ennemis le reconnaissaient, il y avait une discipline qui était extrêmement rigoureuse. On ne pouvait pas se prétendre soldat de l'Éternel et en même temps faire n'importe quoi. Alors, et maintenant, le grand brûlement des Cévennes. Je vous ai dit d'entrée que c'était le moment le plus terrible. C'est un véritable génocide. Entre septembre et décembre 1703. Il est prévu, c'est Babil qui a eu l'idée, le projet. Il est prévu de détruire, de déporter 31 paroisses, 466 villages, et donc 13 300 personnes. C'est clair, c'est net. Donc, alors, Michelet, plus tard, parlera de la Saint-Barthélemy des maisons. Alors, il y a d'autres propositions tout aussi inquiétantes. Par exemple, un brigadier, Julien, qui était protestant, il s'est qualifié Julien l'apostat, lui propose de tout tuer, les mâles et les femelles dans les quatre diocèses, et d'envoyer les suspects périr en mer. Seul Parat, qui est aussi un adjoint de Montrevel, est d'accord, souhaite une amnistie. Mais voyez le degré de violence qu'on en était. 8000 soldats montent dans les Hautes-Cévennes et vont essayer de réduire les villages. Mais c'est difficile, ce sont des maisons en pierre. En plus, les paysans, très souvent, essayent de cacher les portes, etc., pour pouvoir reconstruire après. Alors, les déporter, c'est aussi difficile, parce qu'en fait, ils ne le souhaitent pas. Et bien sûr, alors, ils rejoignent les camisards. C'est-à-dire que l'opération est exactement l'effet inverse de ce qui est attendu. Et voilà, alors quand même il y a des traces d'humanité. Il y en a une, par exemple, qui nous est parvenue. C'est le curé Mingo, qui est un curé dans un des villages des Hautes-Cévennes, qui parle à ses paroissiens, mauvais paroissiens, parce qu'ils sont nouveaux convertis, ils ne sont pas vraiment convaincus, mais apparemment il est très humain, et il leur dit d'abord, protégez tout ce que vous avez, pour que les soldats ne détruisent pas, parce que les Miquelets vont monter. On sait que c'est le jour où les Miquelets vont monter pour tout détruire. Il dit, je serai toujours disposé à vous rendre tous les services qui dépendent de moi et conserverai pour vous des entrailles de père. Je déplore votre malheur, mes très chers enfants, et je suis de tout cœur votre humble serviteur. Peut-être qu'on peut voir là le début d'une humanité, peut-être de l'œcuménisme. Mais il était un peu seul. Bon. Et alors,
je vais voir si c'est une image qui correspond à ce que je veux.
Oui, voilà. tout va finir au mois de mai 1704. Jean Cavalier a donc perdu à la bataille de Nage. Ses ressources ont été détruites à Vézère. Et il dit dans ses mémoires, parce que alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des mémoires de tous ces gens-là, soit des écrits officiels du côté de l'armée, de la politique, tout ça, soit des mémoires des principaux chefs camisards. Il dit dans ses mémoires qu'il a été inspiré et que l'esprit lui a dit qu'il fallait cesser le massacre. Il faut dire aussi que les paysans, vous imaginez bien, les villageois étaient absolument exsangues, je veux dire, le pays était à bout de force. Alors Cavalier va envoyer une lettre à De Villars pour dire « voilà, nous voulons la liberté de conscience, etc. » Et puis, alors Villars se rend compte qu'il a une occasion, si vous voulez, de bien manœuvrer, et en effet, il envoie Lalande, qui est son adjoint, rencontrer Cavalier, il se rencontre près de Vézenobre, sur un pont, personne n'est témoin. Et en fait, Lalande, d'abord, montre à très comprendre à Cavalier qu'on ne négocie pas, un maréchal ne négocie pas comme ça avec un simple goujat, hein. Et il amène Cavalier carrément à renoncer à tout. Il lui dit, ben, il lui laisse entendre que peut-être on pourrait lui trouver un grade de colonel dans l'armée royale, et qu'on pourrait faire un régiment de camisards. Apparemment, Cavalier accepte. Il n'y a rien d'écrit. Et le 16 mai, c'est ce que j'ai représenté ici, Jean Cavalier, avec toute une escorte militaire, se rend à Nîmes pour rencontrer le maréchal de Villars et Baville. Baville qui n'est vraiment pas heureux de rencontrer Cavalier, ça c'est sûr. Mais de Villars a compris que il avait un moyen de négociation, et c'est ce qui va se passer. Cavalier va demander pardon au roi, va accepter d'aller servir dans l'armée royale. Il va se retrouver sur le Rhône avec une centaine d'autres camisards, mais les autres chefs ne suivent pas du tout. Ils n'étaient pas au courant d'abord, ils ne les ont pas tenus au courant. C'est bien ambigu. Et Roland, par exemple, refuse, tous les autres refusent, mais c'est la fin de la révolte. C'est la fin de la révolte. Et Roland, alors Cavalier va partir, Cavalier a une vie assez exceptionnelle. Hein. On n'en parle pas maintenant, mais ça vaut le coup. Et Cavalier va partir pour Paris et ensuite rejoindre l'Alsace, mais en fait il partira avant pour rejoindre la Suisse, parce qu'il se rend compte que ce n'est pas très clair tout ce qu'on lui a promis. Et Roland, c'est-à-dire Pierre Laporte, va être tué en août 1604, après avoir été trahi. C'est la fin de la révolte, de la phase la plus terrible de la guerre des camisards. Alors, je dis que c'était 1602-1604, mais elle va continuer en fait de façon plus ou moins larvée jusqu'en 1710. Très rapidement, en 1705, un complot sera organisé, dit complot des enfants de Dieu, pour essayer de tuer Baville. Mais le complot sera trahison et les comploteurs seront exécutés. En 1709, les étrangers, les Anglais et les Hollandais commencent à se réveiller et à penser que peut-être qu'ils auraient intérêt à aider les camisards, non pas parce qu'ils aiment cette populace, ils ont la même réaction d'hostilité, disons, de classe, mais ça peut être intéressant pour provoquer des difficultés au roi de France. Et en 1609, une flotte anglaise débarque à Agde, mais comme il n'y a aucune coordination, n'importe comment, les camisards n'ont même pas été avertis, elle reste sur un ou deux jours, c'est pas exactement, elle rembarque, après avoir eu pas mal de prisonniers. Et en 1710, je finis là-dessus, alors il y aura encore une révolte dans le Vivarais en 1609, et en 1710, c'est Abraham Mazel qui, le 14 octobre, est tué. Abraham Mazel est un peu le symbole, même s'il n'a pas été un chef militaire, c'est l'inspiré qui est le symbole de cette guerre des camisards. Voilà. Il avait 33 ans. Alors, bilan de la révolte. Un pays dévasté. Il faut attendre 1650 pour que les Cévennes retrouvent une certaine prospérité. Ensuite, de 10 000 à 20 000 victimes, de 3 000 à 4 000 camisards, des galériens, des emprisonnés, des exilés, et en fait une victoire à la Pyrrhus, parce qu'il y a moins de 2 000 bergers, cardeurs, artisans, ont tenu en échec 25 000 hommes, en attendant de ducs, de maréchaux. Mais, alors, on va passer une autre période. Je regarde ma montre. Ça va, vous avez encore un peu de courage ? Là, c'est la partie la plus longue. Là, ça va être plus léger maintenant. C'est l'histoire. Hein, c'est... quelque chose qui est assez intéressant. Au moment même où Louis XIV est en train de mourir dans son prestigieux palais de Versailles, un jeune homme de 20 ans, Antoine Court, organise le premier synode modeste, 8 participants, de l'église du désert. C'est l'église dont je vous ai parlé, qui se reconstitue en cachette. À Monoblet, un petit village du Gard. C'est-à-dire que vous avez un homme qui vieillit en ayant échoué dans ce domaine-là, et vous avez un jeune de 20 ans. Alors, je n'ai pas de diapo sur Antoine Court. Attendez, je pense que la suivante, c'est pas ça. Oui. On peut la laisser quand même. Le tournant, si vous voulez, on peut dire c'est la rencontre imprévue, inédite, d'Antoine Court et d'Abraham Mazel en 1709. Antoine Court, qui avait 14 ans, a participé à une assemblée dans le Vivarais, qui était menacée bien sûr par l'armée, et dans cette assemblée, il y avait aussi Abraham Mazel. Antoine Court était prédicateur, c'est-à-dire qu'il lisait le texte biblique. Apparemment, les dames admiraient beaucoup ce jeune homme qui lisait si bien, qui était si joli. Elles disaient même que c'était un ange. Bon, il n'était pas. Et il a vu sans doute Abraham Mazel. Abraham Mazel qui était 33 ans, mais couturé de blessures, exsangue, menacé, la tête mise à prix. Et on pense que c'est sans doute là où il a compris que la révolte armée ne déboucherait sur rien. Et qu'il va donc, créer une église de la réforme, mais sur des bases totalement différentes, c'est-à-dire un combat pacifique, et d'autre part en restaurant la structure, disons, la discipline de l'église réforme. Et bien sûr dans le désert, c'est-à-dire avec une interdiction totale. Il faut bien imaginer les choses. Voilà. Donc abandon de la violence. Sa volonté aussi, c'est d'éteindre le prophétisme. Le prophétisme, a aussi dérivé vers des formes, oui, j'en ai à peine parlé, mais vers des formes qui étaient extrêmement surprenantes, de tremblements, de crises de pleurs, d'hystérie collective, etc. Et Court, qui était jeune, a voulu remettre en place une structure ecclésiale solide. Et alors, d'abord, il doit rester en France et ensuite, en 1730, il va aller à Genève puis à Lausanne où il va créer une école de pasteurs, de formation de pasteurs pour justement rétablir cette église, si vous voulez, à la fois pacifique mais en même temps organisée. Et ces pasteurs, quand ils vont être formés, vont partir pour la France où la plupart du temps, ils seront un jour ou l'autre arrêtés et brûlés ou rouillés vifs. Alors, une autre idée fausse à abandonner, c'est celle-là, c'est l'idée qu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire sous Louis XV en particulier, tout allait mieux pour les protestants. Globalement, c'est faux. La pression est moindre, sans doute parce que les intendants et le pouvoir royal a peur qu'il y ait à nouveau une révolte, mais la pression est moindre, mais jusqu'en 1770, il va y avoir des gens roués, des pasteurs roués, des gens exécutés, des femmes enfermées, en particulier à la tour de Constance. Et, vous avez peut-être connu, si vous avez lu un peu Voltaire, l'affaire Calas. Et c'est en 1787 où les états d'esprit, ayant quand même beaucoup évolué, le roi Louis XVI va donner l'édit dit de tolérance. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les derniers galériens libérés l'ont été en 1670. Les dernières femmes libérées de la tour de Constance en 1668. On les avait oubliées. Les protestants ici présents connaissent l'histoire de Marie Durand, qui est restée 38 ans en prison dans la tour de Constance. Elle est entrée à 15 ans, faites le compte. C'était des femmes qu'on avait oubliées. Alors, cette religion protestante se maintient de la réforme, on va dire. Hein, se maintient en particulier avec, des cultes familiaux. Hein. Ici, vous avez un prédicant, ce n'est pas un pasteur, qui est en train, si je comprends bien, de bénir un mariage. Non, un enfant, excusez-moi. Oui, j'ai mal vu, bien sûr. D'accord. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'époque, hein, ça date du 19e siècle. Alors, oui, l'évolution, elle va avoir lieu grâce à Rabot-Saint-Étienne. Rabot-Saint-Étienne, qui d'abord est un homme politique connu au moment de la Révolution, et puis qui était le fils d'un pasteur du désert, pasteur Rabot, et il va être le premier président de l'Assemblée constituante de la Révolution. D'accord ? Voilà. Oui, encore une autre image, un autre tableau qui se trouve, je crois, à Mialet, d'un culte, d'une assemblée du désert. Je crois que c'est assez fidèle. Là, c'est un pasteur qui a mis sa robe. Il a une, comment on appelle ça ? Une chaire mobile qu'on peut démonter, hein, qu'on peut transporter. Et vous voyez cette population qui est là, qui l'écoute. Oui, Voltaire. Alors, Voltaire, on y arrive. J'aborde maintenant, si vous voulez, une partie qui n'est plus historique, mais une partie qui concerne, disons, la perception des camisards. Et, alors, il y a eu une légende très noire des camisards. Ça commençait par là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur reproche ? Alors, du côté des protestants, d'abord, hein, de l'exil en particulier, on leur reproche d'abord de provoquer un risque de répression accentuée. Et j'aborde un autre aspect, c'est l'aspect perception. Ce n'est plus l'histoire, d'accord ? Bon. On dit, voilà, à cause des camisards, il y a eu une répression, il y a toujours une répression. D'autre part, un reproche politique, on leur reproche de se dresser contre le roi. Ça, c'est ce qui est absolument faux, d'ailleurs. Parce que ce qu'il y a de caractéristique, alors je parle des camisards, là on est déjà un siècle après, hein. Les camisards, ils renouvelaient sans arrêt leur affirmation de fidélité au roi. Ce n'est pas du tout une rébellion contre le roi. Alors, aussi, on leur offrait les protestants, les autres protestants, en particulier du refuge, Genève, Berlin, etc. Écrivaient, par exemple, les ministres, c'est-à-dire les pasteurs, hein, ne vous ont jamais dit qu'il vous fut permis de prendre les armes et de vous soulever contre les puissants que Dieu a établis sur vous. C'est-à-dire, ça me rappelle à l'ordre politique, si vous voulez. On leur reproche aussi les filles travesties en garçons. C'est vrai que dans le groupe de camisards, il y avait des femmes. Mais ça s'explique d'une part, parce que c'était une société un peu en marge, je veux dire. Et d'autre part aussi, parce que les mariages protestants n'étaient pas reconnus. Le seul mariage qui avait une valeur, c'est le mariage qui était valide, c'est le mariage célébré devant un prêtre. Donc, un homme et une femme soient ensemble dans la nature comme ça, c'était très mal perçu, même par les protestants. Et on leur reprochait aussi, surtout, le prophétisme. C'est-à-dire, on en reparlera peut-être un peu dans la discussion, parce que c'est un point très intéressant, mais qui nous interroge aussi aujourd'hui. Alors, du côté catholique, alors, bien sûr, la condamnation est totale. La révolte est noircie. Par exemple, Louvre-l'Œil, donc l'ami de Duchéla, écrit « Ni Roland ni ses troupes n'ont osé combattre contre les troupes du roi armé Gall, ils n'ont fait que des coups de voleurs ou d'assassins à l'improviste. » Ce qu'il faut, on l'a vu. Bon. Alors, l'évêque de Nîmes dit à propos d'Esprit Séguier, celui qui a tué l'abbé Duchéla. Il écrit que Esprit Séguier, qu'il a vu au moment du jugement. C'est un homme de mine affreuse, d'un visage noir, maigre, long, ayant point de dents supérieures, condamné dans sa jeunesse à être pendu, concubinaire publique d'une coureuse appelée Karine Dosk. Autre reproche aussi des catholiques, le consistoire secret. C'est-à-dire, la guerre des camisards a tellement surpris le pouvoir officiel et l'armée qu'on était persuadé qu'il y avait des officiers étrangers, anglais, hollandais, qui organisaient les camisards. Donc, il y avait un consistoire secret, c'est-à-dire qu'il y avait une organisation secrète. Et, bon, on a eu des études là-dessus, c'est absolument faux. Les Anglais et les Hollandais ne s'intéressaient pas spécialement aux camisards. Alors ensuite, il y a, après cette légende noire, il y a une légende dorée qui va apparaître peu à peu, hein, plus tard, disons. Bon. D'abord, cette légende dorée, c'est une légende populaire. Quand vous allez dans les Cévennes, je ne sais plus aujourd'hui, mais traditionnellement, les camisards, on aime bien. On aime bien, pourquoi ? Parce que, je veux dire, il y a la mémoire très forte des souffrances vécues. Je pense que des personnes ici qui sont peut-être des Cévennes peuvent le dire. Et en même temps, il y a une idéalisation des combats des camisards. C'est sûr que cavalier, le mitron battant un maréchal, ça prête à pas mal de choses. Alors, je vous dirai des choses à propos de là tout à l'heure, le cinéma. Bien. D'autre part aussi, alors maintenant on en vient à un autre aspect de cette apparition d'une légende dorée. Très intéressant, le romancier Eugène Sue, qui est connu sur Annecy, si on peut le dire, a publié en 1840 un roman appelé Jean Cavalier ou le fanatique des sirènes. Alors, c'est un roman. Mais quand même, Jean Cavalier apparaît comme un héros. C'est déjà une nouveauté. Alors, bien sûr, il a beaucoup de défauts, etc. Mais on connaît le nom de Cavalier. Brusquement, les camisards qui étaient honnis quelques années avant deviennent un sujet d'intérêt. Et puis, peu à peu, le sujet va passer aux mains des historiens, heureusement. Alors d'abord, Voltaire. Alors Voltaire va parler des camisards dans trois œuvres, hein, en particulier du protestantisme. Alors, il a une attitude très critique vis-à-vis des camisards. Il considère que c'est une secte, ils sont fanatiques, ils ont l'esprit républicain, ce qu'ils ne supportent pas, et que c'est la populace. Le mot populace est utilisé. Hein. C'est une populace. Mais, d'une part, il va essayer de comprendre, et il va, voilà ce qu'il va dire, à mon avis, c'est très juste. Il agit en historien. Hein. Il écrit « Les camisards agirent en bêtes féroces, mais on leur avait enlevé leurs femelles et leurs petits. On ne peut nier que la violence n'ait produit ce soulèvement qui causa tant de crimes et attira tant de supplices. » C'est-à-dire qu'il se rend bien compte qu'en fait, tout cela s'est produit parce qu'au départ, il y a eu une violence insupportable. Et à mon avis, là je vous le donne tout de suite, cette guerre des camisards, elle s'explique, elle se comprend dans la mesure où la violence était telle que c'était la dernière forme, la forme ultime de rébellion contre l'oppression. Alors, bien, je continue. Alors oui, le grand changement. Ah oui, Antoine Court, donc restaurateur de l'église, de l'église réformée, va être aussi historien. Et il va faire un travail remarquable, ici vous avez la couverture, Histoire des troubles des Cévennes. C'est lui, il s'appelle Patrick François, mais c'est lui, Antoine Court, qui va être publié après sa mort, où, à la suite d'enquêtes très serrées, de confrontation des sources, de lecture de divers documents, il va donner une image intéressante des camisards. Court n'appréciait pas du tout les camisards. Lui aussi, il a considéré que c'était des tueurs. Mais, il a compris aussi que quelqu'un pouvait en arriver là. Alors, maintenant, voilà, c'est Jules Michelet. C'est Jules Michelet. C'est lui qui va complètement renverser l'image des camisards en faisant une image, disons, positive. Voilà ce qu'il peut écrire. Alors, c'est dans son Histoire de France, volume 14. La révolte des camisards signifie une revanche de la liberté. Après. Il dit, la chose fut absolument démocratique, populaire et nationale. Les Cévennes ne reçurent aucun secours de l'étranger. Ce qui est intéressant, c'est le démocratique, hein, le populaire, ce qui est vrai, et national, c'est pas toute la nation, mais il a voulu dire, par opposition, il a voulu s'opposer à ceux qui considéraient que les camisards étaient payés par l'étranger. C'est aussi une des critiques des camisards. Et enfin, là c'est très intéressant. Il s'est intéressé aussi au prophétisme, dont j'ai très peu parlé, mais qui est un phénomène extrêmement intéressant et qui trouble. Il écrit « Il n'est pas possible de réduire le prophétisme à une maladie mentale. Les enfants se mirent tous à dire ce que les parents n'osaient dire, à appeler et prédire la vengeance du ciel. » Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que, en fait, parler de maladie mentale pour le prophétisme, c'est vraiment très rapide. Aujourd'hui, on parle plutôt d'expression du corps, on parle plutôt de tradition paysanne, on parle d'autre chose. Voilà. Alors, maintenant, on en arrive à la dernière phase de l'exposé, ça va être au plus léger, bien sûr. En 1853, il crée la Société de l'histoire du protestantisme français. Et c'est important. Parce qu'au début, cette société ne s'intéresse absolument pas aux camisards. Mais peu à peu, elle va s'intéresser. En 1883, je vais voir si ça correspond. En 1883, cette société va acheter au dernier descendant de Pierre Laporte, dit Roland, sa maison natale était, apparemment il avait des problèmes très graves, cette maison était en mauvais état, elle va être achetée et elle va être transformée en un musée. Là c'est la partie moderne du musée. Mais si vous allez au musée du désert, toute une partie est la partie ancienne de la famille de Pierre Roland. D'accord ? Ça se trouve au Massouberan à côté de Mialet. Oui, Mialet. Arduze, on va dire. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est important parce que, pourquoi ? Parce que là, enfin, le protestantisme rencontre son histoire. On sort de la légende dorée ou noire et on se retrouve en présence de son histoire. Donc là, c'est une partie extérieure du musée des Lettres. Alors voilà la partie intérieure dont je vous parlais qui concerne la maison proprement dite de Roland. Avec un célèbre, vous trouvez là aussi la célèbre croix huguenote. On pense qu'elle a été faite en 1183, c'est-à-dire juste avant l'interdiction, par un orfèvre de Nîmes, un joaillier de Nîmes, et qui a voulu emprunter à la fois, si j'ai bien compris, à la croix de Malte et à la croix du Languedoc. Mais ce qui la caractérise, c'est bien sûr la présence de la colombe qui symbolise l'Esprit Saint. Alors, dernière chose, les Camisards dans les Cévennes, aujourd'hui. J'avais intitulé cela « Présence Camisard ». Camisard dans les Cévennes. Eh bien, dans les Cévennes, les Camisards, vous pouvez en trouver des plaques comme ça sur certains endroits. Par exemple, à Chauve, il y a la place Cavalier. Là, c'est à Martignargues, l'évocation du combat de Cavalier, combat victorieux de Cavalier. Et pour montrer que, oui, c'est volontairement que j'ai mis cette image du rallye des Camisards, pour vous montrer que le Camisard est devenu synonyme d'une marque, rallye des Camisards. Il fallait y penser, ils y en pensent. D'accord ? Et aussi dans les Cévennes, alors il faut l'évoquer très rapidement, Camisard, à un certain temps, a rimé avec Maquisard. Ce n'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. C'est-à-dire que l'arrivée des Camisards, qui avait un fondement religieux, qui déroutait les historiens soviétiques, si vous voulez, n'a quand même pas grand-chose à voir avec cette révolte contre l'occupant allemand. Mais les gens des Cévennes s'y sont reconnus, protestants ou pas, c'est ça qui est très intéressant. Là, c'est une image de 1944, d'un groupe qui était sur le mont Aigoual. Camisard et culture. Il y a plusieurs noms qui s'imposent. Vous avez plus ancien André Chanchon, avec par exemple la suite Camisard. Vous avez Jean-Pierre Chabrol, avec Les Fous de Dieu. S'il y a, à mon avis, un livre romanesque que vous pouvez, devez lire, c'est Les Fous de Dieu de Jean-Pierre Chabrol. Voici la couverture dans la collection Folio. Je pense que c'est pas... Et puis, malheureusement, on l'a même pas en DVD, il y a un film qui est d'une grande authenticité historique, parce que fondé sur les mémoires d'un des chefs Camisards, Bourbonneau, Les Camisards de René Alliot, 1972. Et il marque ce film, que peut-être vous avez vu, qui est un film d'un cinéaste d'une grande qualité en plus, a marqué, on veut dire, pas pour la première fois, mais de façon assez sensible, enfin, un dialogue entre catholiques et protestants. Dans les Cévennes en particulier. Il a été projeté un nombre infini de fois et il y a eu des dialogues œcuméniques, comme on pourrait avoir ce soir, à propos de ce film. Alors, j'en viens maintenant à un autre aspect qui est le protestantisme. Donc, Voilà. Le signe visible de cette rencontre des Camisards et protestantisme, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée du désert. Elle a lieu chaque année le premier dimanche de septembre, au Massouberan. Elle réunit entre 10 000, 15 000 et 20 000 personnes qui viennent de toute la France, qui viennent de toute l'Europe, qui viennent même d'Afrique du Sud où il y avait des exilés huguenots. Alors, ce n'est pas un pèlerinage, ça je m'adresse à nos... aux personnes catholiques ici, ça n'a rien à voir avec le pèlerinage. Ce n'est pas non plus une organisation de telle ou telle église réformée ou adventiste. Ceux qui prennent la parole, en particulier pour le culte du matin, sont des personnalités de protestantisme. Mais ça n'a absolument rien de quelque chose d'ecclésial. Ce n'est pas une fête officielle. Mais on se retrouve là. Alors l'atmosphère est très, très particulière. Et si vous le pouvez, je vous invite à y aller. C'est un mélange, le matin en particulier, d'attention et de spiritualité, de grande attention, de grande ferveur. À midi, le repas est partagé ensemble et c'est quelque chose d'un gigantesque pique-nique sous les châtaigniers, très convivial et très... Et l'après-midi est assez sérieuse parce que ce sont des conférences sur des thèmes d'actualité, par exemple la laïcité, les mouvements de jeunes. Oui. Voilà. En tout cas, et alors ce qui ponctue, ce qui est fort dans l'Assemblée du désert, ce sont les chants. On chante du matin au soir, il y a un orchestre aussi, il y a des chorales, tout le monde chante ensemble, des cantiques, des psaumes, mais c'est quelque chose qui est très présent. Et il y a deux chants que l'on chante toujours, traditionnels. D'une part, le psaume 68, « Que Dieu se montre seulement et le reverra soudainement abandonner la place », psaume dit des batailles, qui faisait hurler de colère Voltaire, qui trouvait ces paroles d'une bêtise incroyable. Et d'autre part, la Sévenole. Alors la Sévenole, c'est un chant qui a été créé au XIXe siècle, qui est très beau, on dit qu'il a l'allure d'une Marseillaise des protestants, et c'est un peu vrai, mais tout le monde le chante ensemble. C'est quelque chose, enfin, je répète, à mon avis, d'assez fort. Alors, pour finir, voilà l'Assemblée des airs, les personnes qui chantent. Assemblée du désert aussi, un pasteur. Alors vous voyez les gens installés sous les arbres, châtaigniers je crois. Alors les pasteurs, rarement on a vu autant de pasteurs ensemble, vous voyez qu'il y a quand même des femmes. Voilà. On en parlera. Alors justement, c'est les points de repère, j'ai bientôt fini, c'est les points de repère qui me semblent importants pour nous aujourd'hui. Je commence par celui-là, c'est-à-dire qu'un trait caractéristique du protestantisme, vous le savez peut-être, c'est quand même la présence féminine. Mais elle est liée au camisard aussi. J'ai évoqué tout à l'heure les prophètes et les prophétesses. J'ai évoqué aussi les femmes qui menaient des cultes familiaux. Et vous savez aussi que dans l'histoire plus récente, il y a des protestantes qui ont joué un rôle important, que ce soit pendant la guerre avec la création de la CIMAD, en faveur des Juifs, ou bien que ce soit Bertie Albrecht dans un mouvement de résistance. Bon. Les femmes dans le protestantisme sont importantes. Et vous savez ici que dans le consistoire de Haute-Savoie, sur les quatre pasteurs, il y a trois femmes. Donc Charlotte et Gérard, notre pasteur. D'accord. Et au Conseil national de l'Église réformée, sur 20 votants, il y a 9 femmes. Bien. Je voulais dire aussi, mais je n'ai pas l'image pour l'illustrer, le fait que c'est lié aussi au camisard. Le sacerdoce universel a pris une réelle importance. C'est-à-dire, vous savez ce que le sacerdoce universel, qui en fait a été mis en valeur, tu me contrediras s'il le faut, par Luther et par Calvin, c'est-à-dire la possibilité pour chaque croyant baptisé de présenter la parole de Dieu et de commenter la parole de Dieu. C'est totalement différent, si vous voulez, d'un système ecclésiastique que je crois qu'on retrouve dans d'autres églises. D'accord ? Alors, je voulais dire aussi, même si je n'ai pas d'image pour cela, propre aux camisards et au protestantisme, par la force des choses, une sensibilité aux minorités. Il est exact que les épreuves vécues par les camisards en particulier, par les protestants pendant pratiquement 2 siècles, ont forgé une sensibilité très forte à la situation des minorités. Ça s'est vu pendant la guerre, en particulier avec l'attitude de l'Église réformée et de la Fédération protestante par rapport aux Juifs. Le pasteur Bogner, justement, en septembre 1942, à l'Assemblée du désert, a demandé aux personnes présentes d'aider tous les juifs possibles et ensuite a réuni les pasteurs pour leur donner des directives assez claires. Ceci pour commenter la sensibilité aux minorités. Et puis finalement, vous allez vous demander ce qu'il fait là, c'est Martin Luther. Après avoir hésité à mettre à dire ce que je vais dire, je le dis parce que j'ai l'approbation de personnes qui sont compétentes. C'est en fait les camisards ont retrouvé ont eu une conscience claire et ont retrouvé le sens premier du verbe protester, c'est-à-dire attester devant, témoigner. La révolte des camisards, c'est en fait une révolte pour témoigner de leur droit de penser différemment dans leur loi. De ce point de vue-là, ils rejoignent donc Luther, ici, c'est à Diète de Worms, en 1529, il dit, Luther, « Je suis lié par les textes bibliques que j'ai cités. Tant que ma conscience est captive de la parole de Dieu, je ne peux ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience, que Dieu me soit en aide. » On peut dire que les camisards, à leur façon, aussi. Conclusion, en guise de conclusion. Est-ce qu'il y a un legs des camisards? À mon avis, il est au moins double. D'abord, un fait. C'est-à-dire que la foi révoltée des camisards est celle plus apaisée, douce et pacifique, douloureuse, mais pacifique, de ceux du désert, constitue bien le fondement qui a permis aux églises de la Réforme d'exister à nouveau. Alors, elles ont la chance de vivre dans une cité où, et là je cite ce que vous connaissez, nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, ni troublé dans l'exercice de son culte. C'est la Déclaration des droits de l'homme. D'autre part aussi, un autre apport, me semble-t-il, dans ce legs, c'est quand même la compréhension de résister pour exister, qui va être le thème de la semaine thématique. La résistance qui culminote, qu'elle ait été pacifique ou armée, s'inscrit dans un combat toujours renouvelé pour la dignité de l'homme. Et alors, je me suis permis d'ajouter aussi ce que André Malraux a dit aux Glières en 1973 pour l'inauguration du monument. Malraux. Le mot « non », fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Les plus hautes figures spirituelles de l'humanité ont dit « non » à César, les esclaves disent « oui ». Alors, les simples cardeurs de Laine Sévenol, les chasseurs de porc de Mialet, l'apprenti boulanger d'Anduze nous ont transmis, eux aussi, ce message. Alors maintenant, les questions. Les questions. Est-ce qu'il faut persuader ou contraindre? Que penser du prophétisme? Qu'en est-il de la violence? Qu'en est-il de la violence d'État? De la violence religieuse ou à prétexte religieux? Et de l'arrogance à se croire supérieur aux autres? Et de notre difficulté à admettre les autres. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je ne pouvais pas être plus court. Je ne pouvais pas être plus court. Je m'en excuse. Je sais bien que... Alors, bon, puisque des annonces ont été faites, si vous le souhaitez, en plus, ce qu'il est tard, oui. Si vous le souhaitez, je crois qu'on est prêt à échanger. Librement, bien sûr.
Je vais faire passer ça parce que sinon on n'entend pas la question, on ne comprend pas la réponse.
Enfin, c'est une question simple, mais je m'étonne quand même que finalement ça a été une révolte uniquement populaire, qu'elle ait jamais été soutenue par, des responsables seigneuriaux, enfin qui auraient pu les soutenir, je sais pas.
Je pense pouvoir répondre, à savoir que les nobles, disons, protestants, s'étaient déjà convertis au catholicisme. Le Turenne a été lundi dernier, etc. Que la petite noblesse, disons, même s'ils avaient des doutes, si on pouvait avoir des doutes sur leur conversion, a joué le rôle de cette conversion. Quant à la bourgeoisie, je pense que la bourgeoisie des villes voyait d'un très mauvais œil ces gens qui semaient le désordre et qui empêchaient les affaires de marcher. C'est du moins ce que j'ai pu comprendre dans ce que j'ai lu. Mais c'est vrai que c'est très étonnant, hein, très étonnant.
Et peut-être qu'il était parti à l'étranger.
Voilà,
pardon. Il était parti à l'étranger.
Oui, oui. Alors, c'est un autre aspect. Oui. Madame vient de dire que peut-être ils étaient partis à l'étranger. C'est exact. Parce qu'en effet, si cette révolte a eu lieu là-bas au CN, c'est aussi parce que n'importe comment, les paysans ne peuvent pas partir. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à l'étranger? La bourgeoisie commerçante, par exemple, peut vendre des affaires, etc. Les nobles, même chose. Mais ils étaient totalement isolés. Et en effet, si la révolte, je prolonge cette idée, si la révolte ne s'est pas développée dans d'autres régions où il y avait pourtant des minorités protestantes, c'est aussi parce que dans ces régions-là, comme on l'a constaté, les gens étaient partis. Enfin, une partie importante des protestants étaient partis à l'étranger.
Par rapport à la période ensuite du désert avec ce jeune pasteur Antoine de Cour. Quand il a organisé ce séminaire à Lausanne, combien de pasteurs à peu près ont été formés? Une trentaine, une quarantaine à ce moment-là, dans ces années difficiles, c'est-à-dire 1730, 1740. Tu as une idée à peu près du nombre de ces pasteurs qui rentraient clandestinement dans le royaume de France à ce moment-là?
Non, je suis incapable de répondre de façon précise, mais c'était n'importe comment limité. Je sais qu'au début, il y en avait à peine 5 ou 6 par promotion, donc je pense que c'était limité, ça c'est sûr. Et d'autre part, ça n'a pas été du tout facile, parce que les personnes, par exemple de Lausanne, les pasteurs de Lausanne, etc., comprenaient mal pourquoi on allait encore entretenir une révolte possible en France. On voulait la paix, on voulait la tranquillité. Ils ne comprenaient pas pourquoi Cour voulait absolument faire renaître l'Église. L'idée, c'était qu'on attend que le régime ait une attitude plus favorable. C'est quelque chose qui m'a surpris en me documentant, c'est justement qu'il y a eu beaucoup de critiques des camisards, et même plus, dans ce cas-là, de l'Église du désert. C'est-à-dire, pourtant, Cour, je l'ai bien dit, a voulu installer une église organisée, suivant une discipline, et pacifique. Mais il n'était pas toujours compris. Et je dois dire aussi, pour finir sur la perception des camisards, c'est que l'Église réformée a mis un certain temps avant d'accepter les camisards comme partie prenante de l'identité. Hein.
En fait, pour ce qui concerne Antoine Cour, Jean-Pierre disait que chaque année, l'après-midi de l'Assemblée du désert, il y a une table ronde organisée avec des historiens, et le thème de cette année, c'était justement Antoine Cour. Il y avait trois historiens, et ça a été diffusé généralement, c'est enregistré l'après-midi, et c'est diffusé sur France Culture généralement pour la Toussaint. C'était diffusé pour eux. Je pense qu'ils sont encore disponibles sur le site de la Fédération protestante.
Alors, ce que je voulais dire, pour reprendre l'idée d'Antoine Cour, ce qu'il a dit est bien sûr parfaitement exact, il y a un grand historien que j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle Philippe Joutard. C'est lui qui est intervenu à cette assemblée pour parler d'Antoine Cour. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a fait un livre qui existe en livre de poche, chez Gallimard et Collection Folio, qui s'appelle Les Camisards, qui est absolument remarquable. Il ne coûte pas cher, donc c'est un livre de poche, il est remarquable. C'est un livre où il a fait, en tant qu'historien, disons, un montage de citations de textes de l'époque. Et ce livre est disponible, je le sais, puisque je l'ai demandé pour le vérifier, à la librairie qui se trouve rue de la Poste, c'est-à-dire chez Catherine Munier, hein, par exemple. Elle m'a dit qu'elle en avait quelques exemplaires. Je vous le conseille vivement, vivement. Et alors, autre chose, pour reprendre cette idée, ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'on a une quantité de documents. La plupart des chefs camisards, quand ils étaient en Angleterre, ont dicté leur mémoire, parce qu'ils ne savaient pas écrire. Là aussi, il y a une question, l'usage du français, on n'en a pas du tout parlé. On dictait leur mémoire, la plupart ne savaient pas ni lire ni écrire. Ils ont dicté leur mémoire et on a des documents très intéressants sur ce qu'a été réellement la révolte. Et on en a bien sûr, je vous dis, tout à l'heure le curé Laufrolage, Bruet, etc., du côté catholique ou du côté de l'État aussi. Les lettres de Montrevel, de Baville, les rapports sont très révélateurs. Alors, l'origine du mot huguenot, d'après ce qu'on peut savoir, ça serait un mot allemand, Algenossen, qui serait d'ailleurs lié à la présence au XVIe siècle de soldats Eichenessen, c'est-à-dire qui sont unis, hein, qui seraient transformés en huguenots, mais ce n'est pas absolument sûr. Hein, et ceci s'est passé à Genève, ça viendrait de Genève, Eichenessen. Mais à l'époque, huguenot était un mot péjoratif. Hein. Et d'autre part, la RPR, religion prétendue réformée, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
C'était des abus qui disaient RPR. Moi, c'était le pouvoir, oui, qui disait RPR.
Oui, la question que je voulais poser, c'est, donc il y a eu une révolte des Camisards, mais comment le protestantisme a perduré dans d'autres régions de France? C'était d'un usage privé ou... Oui, c'est ça.
Oui, c'est une bonne question, parce qu'en effet, j'ai peut-être un peu trop exagéré sur l'importance des Camisards. Il est sûr que... Non, mais c'est vrai. Il est sûr que si l'Église protestante ou les Églises de la Réforme, on va être précis, les Églises de la Réforme ont pu renaître, c'est parce qu'il y avait tout un tissu qui était encore là, même si la pratique religieuse était interdite, même si les assemblées étaient dispersées par la force, avec amende, envoi aux galères, mais c'est exact. Et si Antoine Court a pu restaurer cette Église, c'est-à-dire au milieu du 18e siècle, je ne sais pas exactement la date, 1743, il a pu tenir le premier synode national, ça veut dire. Mais je voulais aussi préciser que le cas des églises, disons, de la France intérieure est distinct du cas des églises d'Alsace et Lorraine, d'Alsace en tout cas. Hein, c'est, ça n'a pas été le même itinéraire.
La religion protestante était considérée comme une religion personnelle. C'est-à-dire qu'on pouvait le pratiquer sans aller forcément à l'église, enfin au temple. Et donc, dans l'Ouest, par exemple, à l'époque, toutes les femmes avaient les cheveux longs. Hein, donc, elles se faisaient des chignons, et donc dans leurs chignons, il y avait des Bibles. Donc, elles cachaient les Bibles là-dedans. Elles se faisaient des bonnets où étaient brodées des Bibles, où était brodée la croix huguenote, ou des châles où était brodée la croix huguenote. Donc, de façade. Elles étaient quasiment converties au catholicisme, mais en fait, en fort d'elles-mêmes, et donc elles étaient restées protestantes. Et elles continuaient à perpétuer la tradition aux enfants et tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu quand même, en dehors des Cévennes, un noyau qui est resté, et qui a, après, quand la liberté de religieuse ou les pressions étaient moins importantes, a continué à ressurgir, quoi. Un peu comme le feu sous la braise.
En URSS, c'est pareil.
Voilà, c'est ça, oui. Quand on les brimade, il y a toujours quand même un noyau qui résiste et qui, comme pendant la guerre, où il y avait quand même des gens qui aidaient les résistants, mais qui étaient, qui n'étaient pas ouvertement résistants. Là, c'était pareil. C'était des personnes qui restaient quand même, au fond d'elles-mêmes, protestantes.
Et au musée du désert, il y a des petites bibles, voilà, de chignons.
Ou derrière les miroirs aussi, on cachait derrière les miroirs, dans Enfin, il y avait beaucoup de cachettes, hein. Les gens étaient très ingénieux, malgré les peu de moyens qu'ils avaient.
Il me semble que certains historiens ont fait un lien, puisque c'est la région du sud-ouest, la grande région du sud-ouest, entre les cathares et les camisards. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? Parce que les espaces géographiques ne sont pas très éloignés. Certes, c'est pas du tout la même époque. Ce lien entre cathares et camisards.
D'après ce que j'ai pu lire, il n'est pas absolument évident, mais il est probable que des cathares se soient réfugiés dans les Cévennes à l'époque concernée. Ça, c'est probable. De la même façon que les Cévenols, enfin, quand il y a eu les révoltes camisardes, savaient aussi que les Vaudois étaient en train de faire leur grande traversée des Alpes pour retourner dans les vallées. Je me permettais...
Je peux faire tenir pour qu'il
d'accord. Que je souhaitais simplement insister sur l'histoire du prophétisme. C'est l'une des choses qui nous déroute le plus. Et si vous voulez, on peut penser qu'il y a eu une phase entre 85, disons la révocation, et puis 1700, de culpabilité énorme. Et ceux qui connaissent un petit peu les problèmes psychiques, psychologiques, médicaux, etc., peuvent comprendre ce que ça a été. Le thème, c'était repentance, repentance. Repentance de quoi? Parce qu'ils avaient l'impression d'avoir trahi leur foi en se convertissant, les dragons aidant. Voyez. Donc c'était une forme de culpabilité extrême qui s'est résolue donc de façon brutale en 1702 avec cette révolte. Et je voulais aussi en profiter pour vous dire, si vous êtes intéressé, donc le livre de Philippe Joutard, ça c'est l'ancienne édition, c'est ce livre-là. Si vous voulez jeter un œil après, je vous conseille vivement, il ne coûte pas trop cher, 15 euros, ce livre « Comprendre la révolte des Camisards » qui est où il y a une quantité énorme de documents photographiques excellents et par Marianne Carbonnier-Bucarne, qui connaît très bien la question. Et enfin,
conservateur du musée du désert.
Oui, conservateur en titre du musée du désert. Et d'autre part, un livre plus ancien, mais qui est extrêmement agréable, enfin, qui est vif à lire, qui perturbe un peu, d'André Ducasse, La guerre des camisards. Voilà.